Mémodio, une mémoire sonore.
Grâce, 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 grâce. Henriette Dumont, production française. Grâce. Grâce. La grâce. Grâce. C'est le thème. Le thème 2024, mon ami Sébastien Spinas l'a rappelé tout à l'heure, du printemps des poètes, la grâce. Vous savez qu'il y a un thème pour le printemps des poètes. Vous ne le savez pas ? Non. Enfin. La grâce, cette année, a 5 bons tarentaises. Œuvre à transmettre avant le 20 mars minuit, le cachet de la poste faisant foi, haïku ou photo. Nice, tout en grâce, sainte, état de grâce, Barjols, peu étrange Barjols, grâce matinée. Le printemps des poètes. Mais y aurait-il assez dans la salle ou ailleurs dans le monde assez de guatémaltèques, de kirghiz, de peuls, de bantous, de canstos, du jardiussien, d'habitants de Fougas et Bavneuf, pour ne pas le savoir. Pour ne pas savoir ce que c'est. Festival depuis 1999, 25 ans, en France. C'est marqué dessus, hein. 25 ans, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. 25 ans, 1999, 25 ans après 1984, vous savez, le livre de Orwell, et 25 ans depuis, le printemps des poètes est créé entre 1984 et aujourd'hui. 25 ans, 25 ans. En France, donc dans l'univers, puisque nous sommes au centre du monde, le printemps des poètes. On voit l'erreur de la cigale, vous savez, la cigale de La Fontaine. Pas au courant, la cigale, complètement con la cigale. Elle chante tout l'été, la cigale ayant chanté tout l'été, pour être, ça va pas, impossible d'être raccro, pour avoir le logo du printemps des poètes tout l'été, trop tôt, trop tard. Pour avoir les subs, vous avez parlé de Sébastien Espinasse. Non, 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 non. C'est au printemps, le printemps des poètes, c'est pas tout l'été. Donc elle aurait pu chanter peut-être et préparer le dossier, surtout de sub, à l'automne, au début de l'hiver, et aller voir la fourmi sa voisine. La cigale voulant chanter pour le printemps des poètes fit un dossier de sub chez la fourmi sa voisine. Alors ça, on fait ça en novembre, décembre, quand on est paresseux. Mais ça sert à rien de chanter tout l'été, il n'y a personne, il n'y a personne. Donc elle aurait pu travailler un peu mieux, la cigale. Pour le printemps des poètes, cette année, en 2024, c'est du 9 mars au 25 mars. Donc, 9 mars, le lendemain de la journée qui a été dure, traversée pour moi, la fameuse journée des femmes. Quelques jours après la fermeture de la chasse. Donc on ferme la chasse, on fête les femmes, puis on lâche les poètes. Et hop, c'est le ramadan, 10 mars. Là, juste là, tac. Le 25 mars, pour la fin, alors ça, vous savez évidemment, c'est la journée européenne de l'enfant à naître, organisée par le Conseil pontifical pour la famille. Alors, du point de vue de l'Église catholique, c'est un peu compliqué parce que le 25 mars, c'est la date depuis le Moyen-Âge du meurtre de Caïn par Abel. De Abel par Caïn, je renverse. Mais c'est surtout la fête de l'Annonciation. On en parlera beaucoup. Ave Maria plena gratia. Vous savez, quand l'ange Gabriel apparaît. Et donc, effectivement, le 25 mars, l'ange apparaît à la Vierge. 9 mois plus tard, le 25 décembre, paf, l'enfant paraît. Donc, le printemps des poètes, c'est entre le 9 et le 25 mars. Le seul problème, c'est que le printemps, ça commence le 20 mars. C'est le premier jour du printemps, le 20 mars. Voilà, c'est comme ça. Donc, le printemps de n'importe qui, le printemps des charcutiers, des pâtissiers, le printemps des postes, des professeurs, le printemps des journalistes, le printemps des gens qui travaillent au hangar, le printemps d'Yves Le Besticon, de Sébastien Espinasse, de Jean-Marie Champagne, le printemps des fleurs, ça commence le 20 mars. Et donc, 80% du printemps des poètes est en hiver. Voilà pour ça. Alors ça, il y a deux hypothèses, il y a deux thèses. Il y a ceux qui disent c'est pour dénoncer le changement climatique, par anticipation, quelque chose comme ça. L'année prochaine, le printemps des poètes sera en février, puis après carrément en décembre, voilà, plein hiver, limité aux derniers glaciers qui resteront avec quelques rares ours blancs, voilà, pour protester. Ou bien c'est poétique. L'hiver, c'est le printemps. Alors vous savez, il y a aussi le printemps de septembre, et donc on peut faire ça aussi. Et donc le printemps des poètes est un hiver. Comment voulez-vous que la cigale s'y retrouve? Ça devient quand même un peu compliqué pour faire son dossier de subvention. Et des gens du hangar, théâtre qui va être détruit peut-être dans quelques mois, savent bien la difficulté de se gérer avec les autorités. C'est très difficile, surtout parfois quand il s'appelle Grâce, effectivement, Francis de son prénom, c'est pas facile. Mais alors pour la cigale, c'est encore plus difficile que pour le hangar, parce que le printemps des poètes, c'est un hiver. Non. Donc tous les ans, tous les printemps, pour un hiver, pour l'essentiel, un thème, depuis des années. Un thème. Un thème, non pas un thème latin, un thème grec, un thème anglais, un thème italien, un thème chinois, un thème guatémaltèque. Vous savez, cet exercice scolaire qui consiste à traduire du français en latin, ou du suisse en suisse, des choses comme ça. Non, un thème. Alors qu'est-ce qu'un thème? C'est pas facile de définir un thème, parce qu'en musique, on sait à peu près ce qu'est un thème, on sait pas très bien, d'ailleurs, on l'emploie en musique, d'une mélodie, une succession d'accords, un rythme, des variations, un thème de Jean-Sébastien Bach, un thème de Vivaldi, un thème de Mozart, des voyez-vous avec ça, mais là non, c'est pas ce sens-là. C'est un mot de la scolastique médiévale, de la rhétorique. Donc un thème c'est quoi? C'est un sujet, une proposition que l'on pose pour la développer. Par exemple, je prends au hasard dans l'heure immortelle de Valéry Cabestin, voilà un thème. Rien n'égale la majesté d'un cerf qui débouche dans la forêt. Vous avez 2 heures pour développer ce thème, 4 heures, 5 heures, les étudiants. Donc, théma, c'est un exercice d'écolier, un fort en thème, c'est quelqu'un qui sait développer quelque chose qui est posé. Parce qu'en effet, théma, ça veut dire ce qui est placé, ce qui est posé. Titénaï en grec, ça veut dire posé, installé. Le thème, il est bien là. Il est posé, il est bien placé, il est solide, il est lourd. C'est le sol sûr, vous savez, le sol sûr. Donc un thème, c'est là, par exemple, il y a un plancher des thèmes, là, sous mes pieds, là, les thèmes par-dessous, le sol du hangar, c'est du thème, hein, véritablement, il y a du béton, il y a installé autrefois, il y a au siècle dernier, je crois, par l'équipe du hangar, avec leurs propres mains, leurs mains fragiles, ils ont fait du béton qu'ils ont posé sur le sol, sur 3000 mètres de molasse, ça c'est solide dessous, à 2800 mètres à peu de profondeur, on arrive dans le Crétacé, un peu en dessous il y a le Jurassique, le Toarcien, le Pliens-Bachelier, le Charmoussien, etc. Les Ichthyosaures, un peu en dessous, le Trias, un peu en dessous, et puis ensuite le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère, le Cambrien, et enfin le Granit, et enfin, effectivement, le Magma. Alors ça vient, ça. Donc il y a le thème, c'est ce qui est dessous, d'accord, 3000 mètres, on a creusé plus de 3000 mètres sur Toulouse, on sait à peu près la chose. Et donc ça tient, il y a longtemps que je thème, depuis longtemps, le vieux thème est là. Alors on sait, bon, quand on a fait, quand on est allé à l'école comme moi, au collège, au lycée, on a eu droit à des thèmes poétiques, des thèmes. Aujourd'hui on va faire le thème de la femme. Aujourd'hui le thème de l'eau. Je me souviens du thème de la fuite du temps, c'était une île d'Amboré il y a longtemps. Et mon expérience personnelle, on me disait, voilà, on va chercher, vous allez chercher, cher petit Bourbin, des poèmes sur la fuite du temps. Alors je parlais, là, je partais dans la bibliothèque de mon papa, de ma maman, et je trouvais l'arc de Lamartine, le temps suspend ton vol, et voilà. Je trouvais Ronsard, qui a souffert du temps qui passe, Brassens, etc. Et donc ça, c'est très pédagogique. L'école aime beaucoup les thèmes. Les sanglots des violons de l'automne, thème 1, les sanglots, thème 2, la longueur, thème 3, les violons, thème 4, l'automne, et clac, voilà. Et donc, le printemps des poètes, c'est un temps à thème, comme ça, comme il y a des parcs à thème, vous savez, il y a des parcs à thème, Disneyland, Disney, le parc Astérix, le Puits du Fou, un truc vraiment de droite, très bien, le Futuroscope, enfin tout ça, voilà. La place Pinel est pleine de parcs à thème. Ceux qui connaissent la place Pinel savent très bien qu'il y a un magnifique canine parc. Le thème, c'est les crottes de chien. Il y a aussi, il y a autrefois, l'espace canin. Il y a le boulot de Rome, le thème, c'est les moules, etc. Il y a l'espace pour enfants, c'est pour les pédophiles, etc. C'est les thèmes. Et donc, il y a des espaces, il y a des temps, avec quelque chose qui tient. Ici, c'est la crotte, ici, c'est la grâce. Enfin, c'est un peu pareil, vous voyez, voilà. Alors, le printemps des poètes, donc, ça dure 16 jours et 84 heures, 23 040 minutes. 138 2400 secondes, ça fait beaucoup quand même. Alors les nanosecondes, c'est encore plus gros, hein. Voilà, c'est énorme. Tout ça, pas plus, pas moins, ça fait une forme dans le calendrier, comme dans les calendriers religieux, vous savez l'Avent, vous avez le Carême, vous avez la Saint-Christophe, la Saint-Cucufa, et là on sait qu'il s'est passé quelque chose pour la Saint-Cucufa. Dans l'Antiquité, c'était pareil, il y avait les Anguéronia, les fêtes de l'angoisse, un peu avant Noël, de ce que nous appelons Noël. Et là, la fête de Saint-Cucufa, on voit ce qui donne l'énergie, c'est le martyr de Saint-Cucufa qui a vraiment existé. Cucufa, c'est un saint qui vient de Carthage, par là qui vient évangéliser la Catalogne, les types ils sont pas contents, alors ils le torturent, ils le déchiquettent, etc. Ils n'arrivent pas à le tuer, c'est pas facile de tuer un saint. Si vous avez un saint à martyriser, c'est pas évident du tout. Saint Georges, on lui fait mille supplices. La solution, si vous avez un saint à tuer, c'est que vous le décapitez. C'est comme ça, avec Cucufa, ils finissent par le décapiter, il est mort. Et alors ça fait après la fête de Saint Cucufa. Donc on est très contents, c'est le 25 juillet. Pensez à Saint Cucufa, aux affreuses tortures que les Catalans lui fait subir, parce qu'il venait les évangéliser. Alors le printemps des poètes, c'est pas Saint Cucufa, c'est un thème. Un thème, et tous les ans, il y a un thème, chaque printemps, il y a un thème, et ces thèmes arrivent par ordre alphabétique. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. L'an dernier, c'était F, frontière. Très bien. Donc, cette année, c'est G. D'accord. L'an prochain, ça sera H. Et après, ça sera I. Et quand ils vont arriver à W, X, Y, ça sera plus difficile. Hein, voilà. Mais bon, avec G, ça va. Donc on a, si on veut, de la mécanique plaquée sur du pédant. La mécanique, c'est ce truc qui se souvient de l'Oulipo, vous savez, des règles, bon, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Et le pédant, ben, c'est le thème. Hein, voilà. Alors cette année, c'est G. On en a parlé ici l'an dernier déjà, il y a un an à peu près, au théâtre du Hangar à... 2 ans avant la destruction du hangar, chaque année qui approche, le hangar n'a plus que 200 jours devant lui, hein, et à la fin de la conférence, 200 jours moins une heure. On y a songé, l'an dernier, on y a songé gras. Gras, c'est dit gras. Grève générale, gag, grog, gog, gogo, groen, garonne, gare, guerre, galet. Galet, c'était pas mal, galet, parce que la poème de Francis Ponge, galet. G, thème G, bouteille de G à Revel, point G. Moi j'aime beaucoup les chevaliers du fiel. Alors, j'ai le point G, je jouis, c'est G ou J. Alors, ça, on est vraiment à Toulouse, vous comprenez, bon, ben, c'est comme ça, ben, c'est pas ça. Hein, on a pensé à Giscard, hein, évidemment, Giscard, on l'espérait. Giscard, on y a cru. Moi j'y ai cru, hein, moi j'y ai cru. Hein. Le passage, quel hommage, où c'était. Si c'était Giscard. On a grâce. Pas 36, grâce, tout simplement. Grâce à Sophie. Le choix de Sophie. Sophie Nolo. Grâce. Grâce, ça signifie partons en France. Sur la bonne terre de France qui jamais ne ment. Jusqu'à la Martinique. Jusqu'à la Guyane, jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'à Pinot encore, jusqu'à Vesoul, jusqu'à Fougas et Marineuf, dans l'Ariège, jusqu'à Berck-Plage, si vous voulez. On fait des trucs, il y a des gens qui font des trucs. qui font des tas de trucs, des tas de machins sur le thème, ce thème, dans les bibliothèques, les médiathèques, les espaces culturels, les théâtres, les rues, les places où on veut, dans les écoles, des poèmes scolaires, des clubs de médiathèques, etc., dans des festivals de proximité, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, grâce à qui? Grâce à Sophie. Sophie. Sophie Nolot, il y a des gens qui ont des noms pas possibles, hein, comme des grands écrivains, Quignon et Michard, si je me souviens bien, ou le Pestican, enfin, c'est pas très bien. Sophie Nolot. Alors, Sophie Nolot, on lui doit des anthologies de la poésie et des livres. Magnifique. Des titres les plus extraordinaires, c'est celui-ci. La plus noble conquête du cheval, c'est la femme. Ça, il fallait l'oser. La plus noble conquête du cheval, c'est la femme. Ça donne envie. Un peu plus tard, 2 ans plus tard, elle sort « J'attends un poulain », journal d'une renaissance. Un peu plus tard, là, on dit « Attends, espère en ton courage ». Il y a des gens qui ont dit « Elle me tutoie, ça m'énerve un peu ». Bon, voilà. « Espère en ton courage ». C'est une adresse aux gens du hangar. Puis, pour les gens qui organisent le festival Les Brissonnantes, qui est parfois en crise de temps en temps, c'est difficile hein, pour avoir des subventions, à s'entendre entre nous, trouver les bons poètes ou les mauvais. Ce qu'il faut de désir. Écoutez ces titres. Ce qu'il faut de désir. Ce qu'il faut de désir. Espère en ton courage. J'attends un poulain, un journal, une renaissance. Enfin, j'ai pas ces livres-là parce que je lis essentiellement les livres que je trouve place Pinel dans la boîte à livres. Et comme les gens tiennent énormément à leur livre de Sophie Nolot, quand vous avez ce qu'il faut de désir, vous le gardez. Il y a quelques jours, j'ai trouvé par exemple Bruno Le Maire, Fugue américaine. Les gens, ils se débarrassent. Hein, ils gardent pas, je le trouve tout de suite. Tu vois. Grâce, hop, boîte Pinel, hop, voilà, il va. Sophie Nolot, il le garde. Alors moi, je ne les ai pas. Hein, je ne les ai pas parce que je ne vais pas enrichir les intérêts encore avec Sophie Nolot. J'attends que ça soit dans la boîte à livres de place Pinel, mais je sais que tout un tas de gens ici ont les Sophie Nolot. Mais ils les gardent, hein, parce qu'ils espèrent, je crois que Sébastien en a acheté 400 ou 500, là, parce qu'en fait, il attend que les prix montent sur J'entends un poulain, le journal d'une renaissance, voilà. Et donc Sophie Nolot, c'était une étudiante à Fermat, ça n'a pas été tout à fait mon étudiante, parce que je suis arrivé, juste parti un peu avant, mais je lui fais passer quelques cols, je me souviens. Elle avait du charme, un tout petit peu de poids, cependant, vous savez, les professeurs regardent ça, surtout, non. Elle avait un petit peu de poids, et d'ailleurs, selon ses copines, ne prête pas un peu trop aussi. Et donc, quand elle est réapparue à ma vue à l'Ébrion Bleu Blanche, à l'invitation d'ailleurs de Serge Paye indirectement, 3 ans après la prépa ou 2 ans à peu près, elle avait perdu, selon ses copines, qui débattent entre elles. L'autre jour, j'avais une réunion avec les anciennes. On ne savait pas très bien si elle avait perdu entre 5, 6, 7, 8 kilos peut-être, les avis divergent. Bon, je pense que, disons, on peut dire qu'elle avait perdu environ 5 kilos. Le point est important. Parce que trop de graisse peut gêner la grâce efficace, pour reprendre une expression, d'ailleurs ça se discute, la grâce efficace, sur les théologiens, voilà. Disons que le choix de Sophie, c'est la découverte, s'était porté sur AV, vous savez, AV, André Walter, pour les intimes, c'est AV, on y reviendra, qui avait environ naturellement 32 ans plus qu'elle, mais qui n'aimait pas la graisse, et sur lesquels elle rédigea assez rapidement une thèse, elle avait commencé par faire son master, cette thèse a un nom magnifique, André Walter, troubadour au long cours. André Walter, troubadour, entendez bien ce type de thèse. André Walter, troubadour, long cours. Troubadour, long cours, on en a plein la bouche de poésie, c'est pas comme tous les poètes, plus ou moins tous ceux qu'on a ici, voilà. Ça rime, ça, il n'y a pas eu des rimes, hein, toujours là, voilà, avec les poètes, voilà. Ça rime, ça n'est pas non plus André Walter, vieux poète voyageur, ou vieux baiseur, 16 heures, enfin tout comme ça, non. C'est même pas, comme La Fontaine, le héron long bec, enfin, etc., voilà, long cou, voilà. Non, là, c'est beaucoup mieux. Troubadour, à côté de Toulouse, je floreau, enfin, vous voyez, le passé, enfin, c'est très bien, voilà. Au long cours, donc, il a beaucoup voyagé, c'était un marin, ou je ne sais pas quoi, voilà. Donc, André Walter venait de perdre sa précédente compagne. Ça arrive, hein, elle meurt beaucoup. Hein. Elle était morte dans l'Himalaya, celle-là. Aussitôt, un poète, dès que sa femme, sa compagne meurt, il fait un recueil de poésie, hein, c'est quand même important, voilà. Les poètes ont souvent besoin de femmes mortes, hein, ça sert dans la vie d'avoir des femmes mortes, ça aide la mort des femmes pour les poètes, on le voit, il suffit de regarder sur Facebook, les poètes toulousains. Une femme morte, donc ça pèse plus, ça encombre plus de contradictions, c'est léger, c'est plein de grâce. Mieux, même si on ne veut pas qu'elle meure sur la place publique, on peut faire un poème pour les femmes qui n'existent pas, genre Clément Cisor, c'est relativement commun. Et donc André Walter, était invitée à ses côtés, c'est ainsi qu'elle est apparue devant les cagneuses, un peu troublée parce qu'elle avait perdu 6 kilos, 7 kilos, 5, 8, ça dépend, à côté d'André Walter qui était là, et qui venait lire quelques poèmes extraits de L'amour extrême, poème à Chantal Mauduit. Le thème, c'est la grâce, on va voir un petit peu. Donc Chantal Mauduit était une escaladée des montagnes, elle était morte dans l'Himalaya, ça arrive, voilà. C'est pas à Toulouse, c'était dans l'Himalaya. Et donc voilà du André Walter, c'est-à-dire de la grande poésie française, puisque donc là c'est France Culture, c'est Gallimard, c'est Le Printemps des Poètes, c'est tout ce qu'il faut. Alors André Walter était très beau, chevelu, il est souriant, mais il est un peu vieux, hein, très belle chevelure blanche, vous savez, bon, le poète Gallimard par excellence. Bon, au coup d'œil, Sébastien Espinas, moi, on n'est pas exactement les poètes Gallimard, on n'a pas les cheveux un peu longs. Voilà, comme ça. Et puis on n'a même pas un 4x4, je crois que la voiture de l'Espinasse, elle est plus ou moins minable, la mienne aussi, c'est pas terrible, enfin voilà. Et pas terrible. Mais voilà, voilà du André Walter, poème à Chantal Mauduit. Et là, il faut partir de là pour comprendre. Là-haut, tu es. Là-haut, quoi qu'il advienne. Femme, soleil d'un miracle à jamais, que rien ne sépare de la pure lumière, ni du souffle ascendant de notre amour, promis à une autre altitude, tu es là, hors d'atteinte, hors du monde, où meurent les âmes et les corps. Tu danses sur l'horizon que je porte en moi, pour abolir l'espace et le temps, tu vises à l'infini. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Vous entendez un peu, fameux soleil, que rien ne sépare de la pure lumière, miracle à jamais que rien, enfin c'est vraiment, on dirait une traduction, le thème latin pour Budet, voilà, c'est très beau. À cette poésie sublime, malheureusement nous sommes de Toulouse, répondent les grands poètes toulousains, hein, par exemple les Chevaliers du Fiel, qui répondent directement à André Walter en disant « Je te prendrai nu dans la cime Camille ». Alors là, au présent et au passé, André Walter, les Chevaliers du Fiel répondent par le futur. « Je te prendrai ». C'est l'avenir, forcément. Ils savent très bien que la poésie, selon Gabriel Celaya, est une arme chargée de futur. Ils répondent à la verticalité du chemin par l'horizontalité. Parce qu'ils vont à Narbonne, Cassim Camille, manger une pizza calzone, dire à la fille, elle était vachement bonne. Donc on est dans l'horizontalité. Horizontalité, c'est très important de comprendre ça. Et enfin, dans la présence réelle. Je te prendrai nu, tandis que l'autre elle est morte, elle est là-haut dans l'infini, etc. Et donc c'est une sorte de réponse locale à la poésie parisienne de France Culture, d'André Walter, du Printemps des Poètes, etc., etc. Mais quand même André Walter avait, toujours pour les intimes, avait entendu ceci, le ciel qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous, l'amour est temporel. Nos sens facilement peuvent être charmés des célestes beautés que le ciel a formées, et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Ça, c'est Tartuffe. C'est Tartuffe de Molière, qui s'adresse à Elmire, et qui lui, en substance, n'efface pas la fesse. Et qui arrive un petit peu, voilà, le ciel ne suffit pas. Il faut de la chair. La foi ne suffit pas, il faut de la fesse. Et en cette affaire, la chair, ce fut Sophie. Sophie, une présente tête, qui avait derrière 7 kilos, 6 kilos peut-être, mais voilà, un peu comme Nathalie sans H. Alors pour les connaisseurs qui lisent Nuit et Jour, évidemment, le passage vers les Giscard d'Estaing, ils savent très bien que Nathalie est l'héroïne, enfin c'est-à-dire celle que vise Giscard, c'est-à-dire Charles, et que c'est Nathalie sans H qu'il rencontre et auquel il va donner des rillettes, justement, avant de se la taper, voilà. Mais Sophie a un H, sinon ça serait Sophie, ça serait un peu idiot. Et donc c'est Nathalie, c'est Sophie avec H. Donc Sophie eut la grâce efficace. Walter lui dit Ave Sophia, gratia plena. Ce matin j'ai un colloque, c'est un colloque sur le latin. Je vous salue donc Sophie, pleine de grâce, et avec moins de grâce. Et elle lui dit oui, et cela permit des ouvrages inoubliables, comme. Ce qu'il faut de désir, acte sud, 13 euros. Alors sur le site de l'éditeur, on voit cette critique, une déambulation, un vagabondage entre le mystère du désir sous toutes ses formes de l'amour courtois et troubadour à nos contemporains, signé Brigitte Lahaye, Sud Radio. Alors, qui peut se vanter d'avoir une critique de Brigitte Lahaye? On l'a vu, il y a un poète, Louis d'Orsay, je ne pense pas qu'il y ait des critiques de Brigitte Lahaye, je ne suis pas sûr. Sébastien Lespinasse, je ne suis pas sûr. Moi non plus. Serge Peille, non plus. Enfin, on est nombreux à ne pas avoir une critique de Brigitte Lahaye. Chacun pourtant se souvient quand même de ce talent. Non. C'est la fête à mon cul par Didier Sada. Voilà. Rentre ses bons de Maxime Debest. Pour nous, roulette et surtout la mouillette. Hein. La mouillette, c'est vraiment un souvenir pour nous tous. Hein. Donc, avoir une critique enthousiaste de Brigitte Lahaye, ça, c'est grâce au troubadour au long cours, naturellement. Parce que si pas troubadour au long cours, pas publication là où il faut, pas critique de Brigitte Lahaye, etc. Selon le poète toulousain, bien connu,
il a mes âges sur la photocopieuse.
Et l'autre de préciser, il n'a pas que le bras de long. Ça, c'est pas très gracieux comme commentaire. Il y en a un autre qui récemment me disait, commentant la chute récente de Sophie, vous avez vu à cause d'un certain, je sais pas comment il s'appelait celui-là, voilà, un type qui était monté avec elle sur le sommet de Notre-Dame pour évoquer son Talmud-Juif il y a quelques années et lire les poèmes de l'autre avis, voilà. Donc elle est tombée. Ça, on finit par tomber des fois, vous avez vu peut-être, dans Le Point, si vous lisez les articles du Point. Et donc il y en a un qui me disait l'autre jour, c'est anatomie d'une pute. Ah, ça, c'est vraiment des Toulousains, quel mauvais goût. On joue sur Grasse, sur Garce, on est vraiment bon, les gars de Garonne. Bon, voilà. Heureusement qu'il y a le jeu Fleurot pour sauver la poésie à Toulouse. Le poète de Toulouse, bien connu, pensait aux photocopieuses de chez Gallimard quand il a dit plusieurs fois, il l'a baisé sur la photocopieuse. Pas n'importe quelle photocopieuse, les photocopieuses de Gallimard. Pas les petits éditeurs là, con, là, qui il y a des bouquins à vendre. Là, enfin. C'est là qu'il se l'est faite. Ainsi, Sophie, dès que fut faite, fut princesse chez Gallimard, dame de France Culture, fée du printemps des poètes, la fête, d'où les thèmes et leur ordre. A, B, C, D, E, F, G, A, G. G. Gallimard, non, pas Gallimard. Gallimard, c'est très grand éditeur, c'est l'éditeur de Fugue américaine. Le fameux roman de Bruno Le Maire, que tout un tas de types de gauche plus ou moins obsédés, j'ai vu les pages Facebook, ont lu essentiellement sur sa page Q. Là, tout le monde a commenté ça, on s'est envoyé ça, des passages incroyables, chauds, voilà. Moi aussi, bien sûr, naturellement, voilà. Mais moi, je l'ai regardé plus près, et, par exemple, je vous cite quelques pages, quelques lignes, quelques phrases magnifiques qui donnent idée de Gallimard. Par exemple, page 163, je trouve ceci, « Il posa ses deux mains tavelées » sur le coton immaculé de la nappe. Ça, c'est beau. Et cette phrase qui précède immédiatement, je la vois sous mes yeux, il avala d'un trait sa coupe de champagne. Alors vous avez remarqué, c'est un alexandrin. Hein. Il avala d'un trait sa coupe de champagne. Ça fait évidemment penser à Jean-Marie Champagne, ici présent. Et donc, c'est une publicité indirecte pour le printemps des poètes et nos actions. Donc, voilà un grand écrivain de chez Gallimard. Non, non, c'est pas Gallimard dont il est question. On pourrait dire que ça pourrait être le jeu, effectivement, le Giscard, parce que Giscard, quand même, bon, certains disent que c'est l'ancêtre de Bruno Le Maire en littérature, mais non, hein, vous savez, non, lisez plutôt ça, c'est vraiment raté, hein, c'est ça qui est bien, on est vraiment dans le ratage intégral, tandis que lui a fait Normal Sup, c'est affreux, quoi, c'est presque mieux, quoi, mais, donc c'est pire, enfin voilà. Et alors, donc, l'odeur du passage, en effet, alors non, c'est Ada, c'est pas Giscard, apparemment, quoique, Giscard n'est jamais loin avec le passage. Prenez Giscard, vous voyez, déployez dans le PowerPoint, si vous voyez, qui est derrière moi, les lettres de Giscard, hein, vous voyez, comme tous les exercices, Giscard écrit. Prenez le passage, hop, PowerPoint, j'appuie sur le bouton, ça s'allume, ça marche, plus ou moins. Prenez les lettres Giscard, les lettres le passage, mets-les-les, recomposez, faites de la cuisine, vous prenez le G à Giscard, ou si vous voulez, à passage, d'accord? Puis le R à Giscard, puis le A à passage, ou à Giscard, si vous préférez, voilà. Le C à passage, à cause du son, mais le C vraiment à Giscard, parce que ça fait Q, là, voilà, très bien. Et le E à la fin de passage. Et vous avez, grâce, sans chapeau, circonflexe, il reviendra, chapeau bas, sans circonflexe. Victor Hugo le disait, les mots sont les passants mystérieux de l'âme, dans les contemplations. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme, Giscard est le passant mystérieux de la grâce. Grâce est le mot fanteur entre Passage et Giscard, mot de passe pour les subventions, grâce, grâce. Mais quelle discrétion de la part de Sophie, quelle subtilité dans l'hommage. C'est de la haute poésie qui combine un entremescard des mots, je parle là comme les troubadours occitans, une dispersion, rotation des lettres et une renaissance par la mort, c'est-à-dire le passage. C'est admirable, le choix de Sophie, n'insistons pas, ne forçons point notre talent, ne ferions rien avec grâce. Ça, c'est La Fontaine qui l'écrivait en 1668, il pensait sûrement à Sophie Nelot. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne serait passé pour Calan. Il savait que Sophie n'était pas lourdaude, avec l'air perdu 5 kilos ou 6 kilos, et donc c'était un peu léger, donc peut-être 6 kilos pour atteindre le ciel. Le ciel, le septième ciel, le huitième ciel, le neuvième ciel, on ne sait pas très bien. En tout cas, le ciel de la poésie et de la publication. Donc, la grâce, grâce à tout ça, c'est le thème 2024 du Printemps des Poètes. Un thème bien posé, solide, partout, partout. L'autre jour, j'arrivais de Revel pour enregistrer une émission en radio-radio, qui est une radio extraordinairement importante de Toulouse, la plus importante, ça va être la seule, hein, me semble-t-il. Voilà. J'arrivais de Revel, je descends devant la gare, je traverse le parvis Valéry Giscard d'Estaing, je m'assois un moment, il y a des amoureux qui sont là, je vois les panneaux, parvis Valéry Giscard d'Estaing, je suis heureux, il fait beau, voilà, je vais rencontrer l'équipe de Radio Radio, je regarde les panneaux Valéry Giscard d'Estaing, je suis heureux, je vais vers la gare, et là soudain, je vois des affiches, Printemps des Poètes, avec une phrase de Sophie Nelot, alors des affiches avec cette image de Françoise Verdier dessus, un peu partout, il y a écrit Printemps des Poètes, il y a écrit La Grâce, alors que vous allez à la gare, vous descendez dans le souterrain, dans le passage, hein, là aussi, voilà, vous avez La Grâce un peu partout, avec des phrases de Nougaro, qui est pour rien, il est mort depuis un certain temps, voilà, mais bon, il fait partie du truc. Et donc, voilà, et sur les affiches, un peu partout, quand on va à la gare, bon, il y a partout écrit train en retard, 2 heures de retard, 3 heures de retard ce jour-là, pour aller à Foix, 4 heures de retard, c'est supprimé pour l'Avelanais, si vous voulez aller à Albi, allez vous faire foutre, etc. Donc, les gens attendaient, avec des airs un peu de con, ils regardaient vers le ciel, comme ça, le panneau d'affichage, les filets. Et puis partout, il y avait écrit La Grâce, ils regardaient un peu au ciel. Et sur les affiches, il y avait écrit partout ceci. La grâce, avec son accent circonflexe, hausse en un instant le ton. Phrase de Sophie Nelot. Ça, c'est ce qu'il faut dire. La grâce, avec son accent circonflexe, d'accord, hausse en un instant le ton. Alors là, l'ancien professeur de Klein, je dis, hausser le ton, ça veut dire gueuler, quoi. Parler fort, méchamment. La grâce gueule, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, hausser le ton, se montrer en colère, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Je veux plus voir que la grâce. Pas de grâce, ta gueule. Si t'as pas la grâce, t'as pas de thune, garde-toi la grâce. Fils de ta grâce, c'est ça, c'est le temps. Sophie aurait dû regarder le dictionnaire. Mais devant la gare, c'est là. Alors on sent une petite tension entre grâce et thème. Bon, entre thème et poésie, parce que hier j'ai eu une petite rencontre avec quelques poètes, musiciens, etc. Vous comprenez bien que tous travaillaient à partir de mots, de matières, d'émotions, d'impressions, de sensations, d'indignation, peu importe. Mais aucun n'a dit, tiens, cette année, je vais traiter le thème de la fuite du temps. Et je ferai la poésie à partir de ça. Ou je vais traiter le thème de, je crois, la femme, ou le dinde, ou le dromadaire, ou autre chose comme ça. Voilà, et je vais faire une œuvre, même le thème serait exactement cela. Et puis toute mon œuvre sans le thème. On ne travaille pas vraiment comme ça. Poésie et grâce, apparemment, ça va, ça match, on peut dire un petit peu. C'est pas le mot. Le mot grâce, il n'est pas terrible en français. Hein, il n'est pas terrible parce que grâce, 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 corps gras, Günther grâce, Francis grâce, si vous voulez. Grâce, embarrasse à la rime, ça fait crasse, ça fait race, ça fait crasse, grâce, brasse. Malgré embrasse, en fait, tout ça, masse, casse, passe, masse. D'ailleurs, un film porno que je voyais un jour en Espagne, les filles criaient ça, masse, plus, voilà. Grâce, tout ça, et en anglais, as, en fait, etc. Et au début, gras, etc. Ça c'est difficile, la langue française, parfois, vous savez, Mallarmé disait, il faut rémunérer le défaut des langues. Le jour nuit est plus nocturne que le jour nuit. Etc. Et donc le mot grâce n'est pas très gracieux, c'est comme ça. Enfin bon, on va dire assez souvent quand même, il faut le dire, que la poésie est pleine de grâce, que la grâce est pleine de poésie. Quelle grâce, quelle poésie, quelle grâce, quelle poésie, ça va un peu ensemble. Et oui, La Fontaine déjà disait dans un de ses poèmes « La grâce, plus belle encore que la beauté ». Et puis lui, qui aimait assez pas mal de jolies femmes, en voyant une qui dormait, vous savez, voilà, il dit « J'ai vu la beauté de même et les grâces dormantes, la grâce et les grâces, où Ronsard, la grâce dans sa feuille et l'amour s'y repose. » Ou René Char, qui écrit de Nerval, « Nerval à la grâce qui affame. » Ou Rimbaud, « J'ai reçu au cœur le coup de la grâce. » On ne sait pas très bien d'où il part, mais on sent qu'ils en parlent. Hein, voilà. Il y a pas mal de fois le mot « grâce » chez pas mal de poètes, depuis longtemps, de poètes français. La grâce, les grâces, c'est insaisissable, c'est pas très commode, hein, la grâce. D'ailleurs, c'est pas très commode, y compris d'ailleurs en peinture. C'est un des plus beaux tableaux que possède la France, c'est les trois grâces qui se trouvent au musée de Chantilly, signé par Raphaël. Raphaël, le nom d'ange, et un petit tableau tout petit avec trois femmes à poil qui sont les trois grâces. On se dit, tiens, je vais voir les trois grâces, c'est pas mal. Bon, les trois grâces, alors je cherche à les reconnaître, Thalie, Euphrosyne et Aglaé, je suis très content, voilà. Je remarque quand même qu'elles ont un peu un problème, c'est que les trois grâces sont les boules. C'est-à-dire que chacune des grâces tient dans sa main une boule rouge. Alors du coup, ce n'est pas les grâces, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors il y en a qui pensent que c'est Paris qui, vous savez, lance une boule mâle à trois jolies femmes, dont Vénus, et après elles se disputent, d'autres pensent que c'est autre chose. En fait, on n'en sait rien. Et donc même le tableau qui est au musée Chantilly, le tableau de Raphaël, qui s'appelle Les Grâces, c'est bien connu comme Les Grâces, ce n'est pas les grâces. Donc ce n'est pas facile, même avec les grâces de Raphaël, de savoir ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est que quand on est devant les grâces qui ne sont pas les grâces du château de Chantilly, et qui ont les boules, effectivement, qui font peut-être partie du Pinel Pétanque Club de la place Pinel, parce que c'est un poil, mais je pense que si vous allez au Pinel Pétanque Club, vous verrez que vous avez une Fanny cul nue, hein, voilà, qui est à l'intérieur, c'est pas très, très gracieux peut-être, mais c'est efficace. Voilà. Eh bien, la grâce, quelque part, ça, cette idée que ça éveille au désir. Vous savez, à toutes sortes de désirs, hein, pas simplement le désir, voilà, dans de belles terres. Voilà. C'est quelque chose comme. Il y a une incomplétude, il y a une présence, c'est quelque chose qui manque, qui nous attire. Ça échappe à la conceptualisation. On le sent, une et multiple, une grâce, trois grâces, plein de grâces. C'est présent, c'est absent. On ne pince pas les fesses de la grâce, hein, les graisses peut-être. Voilà. La grâce est fuyante, mais elle est apparaissante. Et alors c'est compliqué parce qu'il y a un genre de double paysage quand on parle de grâce. Il y a un paysage esthétique, que c'est beau, que c'est gracieux, hein, esthétique, beau, bien. Hein. Et puis un paysage théologique. Et alors tout ça se mélange le 25 mars, dernière date du printemps des poètes, hein, voilà, dernière date, voilà. Le jour de la fête de l'Annonciation. Vous savez très bien ce que c'est que l'Annonciation, pas le cours de catéchisme, donc vous avez un ange qui arrive. Il est là, Gabriel, bon, il arrive, la main par là de lys, et il voit une jeune fille, bon, 13-14 ans, alors il n'est pas pédophile, hein, l'ange, c'est pas de par Dieu, hein, c'est un ange, il est très respectueux. Et il dit à la jeune fille qui est là, 13 ans, 14 ans, c'est pas qui est là de lire un bouquin un peu triste, hein, parce que dedans, lui qui a dit, c'est l'évangile avec la mort de son fils. Bon, c'est un peu embêtant de savoir que votre fils mourra très vite en croix dans un vessie, hein, c'est pas commun. Hein. Et il lui dit, Ave Maria gratia plena. Ave Marie, tu es pleine de grâce. Et donc, cette grâce qui lui tombe du ciel, qui le représente, tac, d'un seul coup, elle est enceinte. C'est le 25 mars, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. Et craque 9 fois plus tard, il n'y a pas de problème, tac, pas d'avortement, rien du tout. Et elle est effectivement enceinte de l'Esprit Saint directement, en latin, le sperma dei. Clac, clac. Il y a peut-être des gens qui sont traversés par le sperma dei, tchac, ça prend par l'oreille. Si vous êtes pris par l'oreille, on peut se connaître du sperma dei, c'est pas possible. Je suis tout pour les dames. Mais non, elle est à la fois pleine de grâce, quelque chose un peu mystérieuse, qui vient de Dieu, qui l'a fait prendre, mais aussi elle est jolie, hein, parce que quand même, bon, voilà, elle est plus que jolie, même, elle est vraiment très bien. Il n'y a pas un peintre de la tradition, Frangelico, Léonard de Vinci, qui font de Marie un boudin, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Elle est jolie, elle est présente, elle est là, elle est occupée, bon, elle est occupée, il y a un livre, autre chose à faire, hein, parce que quand vous êtes 13-14 ans, autre chose à faire pour voir un ange qui arrive là par la fenêtre, hein, coucou, c'est moi, voilà. Et donc, elle est naturelle, elle est sans calcul, elle est pas maquillée, elle a pas de pins, elle a pas de tatouage, de trucs, de machin, de bidule, etc. Elle a pas une mini-jupe, un petit truc comme ça, voilà. Non. Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. La grâce est du côté du naturel. Et Marie, elle est naturelle. La grâce est du côté de cette présence. La grâce, c'est le contraire de la valeur travail. Vous savez ce que j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy, d'ailleurs Bruno Le Maire aussi, ils aiment bien ça, la valeur travail. La grâce, c'est le contraire. Hein, il n'y a pas besoin de travailler pour la grâce. Ce n'est pas parce que vous travaillez 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour, 30 heures par jour que vous avez la grâce. Les poètes le savent parfois. Hein, voilà, ce n'est pas parce que vous faites un sonnet pendant 50 minutes ou 50 heures que vous faites un poème gracieux, rien du tout. Voilà. Et donc, la grâce, on ne s'en lasse pas, mais c'est une sorte de présent toujours recommencé, dans le double sens du présent. C'est présent, c'est là. La grâce, voilà. Et puis c'est un don, un présent qui est au présent. Hein. Voilà la chose. La grâce, donc on la constate, on n'y peut rien, elle est là. Une et multiple, brillante, chatoyante, discrète, indiscrète, incompréhensible. Enfin un peu quoi, n'importe quoi. Hein. À la limite, n'importe quoi, la grâce, de cette manière. Vous prenez un caillou, finalement, un tas de fumier même, hein. Enfin voilà. Un éléphant, c'est... Ça l'adore, ça, oui, d'ailleurs, il y a Madame Éléphant qui trouve, voilà. Et donc, il y a toujours des peintres pour peindre des trucs un peu bizarres, hein, voilà. C'est la grâce, de Cézanne, hein, voilà. Il y a quand même des pommes un peu quelconques, et puis soudain, crac, la grâce. Et alors, si on revient à l'affiche du printemps des poètes, parce que ça, je tiens beaucoup à l'affiche du printemps des poètes, elle est faite par Françoise Verdier, voilà. Bon, il n'y a pas la Vierge Marie, c'est un peu dommage, hein, je trouve, hein, voilà. La Vierge Sophie, enfin, la Vierge, voilà. Il y a la grâce, et derrière, il y a un message. Il y a un message, alors c'est financé par la Fondation La Poste, hein, voilà. Pensez-y, hein, quand vous allez à La Poste, ça sert à financer ça, voilà. La Fondation La Poste agit, voilà. Et vous avez un message de Jean-Paul Michel. Alors Jean-Paul Michel, c'est assez rigolo, Jean-Paul Michel, auteur de « Autant de voix espérées possibles d'une sortie de la stupeur ». Autant de voix espérées possibles de sortir de la stupeur. Il y a un moment, on finirait par sortir de la salle tranquillement, voilà, ça ira. Et là, il y a une citation qui est là, vous la voyez. Vous utilisez ça comme carte postale, envoyez à vos amis, tiens, je distribue. Voilà. Hein, bon, c'est pas cher, voilà, c'est de l'or, bien sûr. Et sur la citation, il y a écrit un jour, virgule, le rideau se déchire, point, on passe à la ligne, on. En italique, voit. Un jour, le rideau se déchire, on voit. Wow. Un jour, le rideau se déchire, on voit. Alors là, quand j'ai vu ça, j'entrais dans la gare. Hein. Voilà, j'entrais dans la gare. Le rideau se déchire, on voit. Moi, je vois les types en train de regarder les horaires, les textes sont en retard. Enfin, ils n'arriveront pas, peut-être, d'ailleurs. Hein. J'avais dit, ça, c'est vraiment l'idéalisme philosophique. Hier, on avait la Cibu qui connaît bien la philosophie. L'idéalisme philosophique le plus plat. Le plus plat, le plus nul, mais au fond, c'est même de l'antithéologie. Parce que je répondrai à Jean-Paul Michel, et du coup, quoi, tant des poètes, un jour le rideau se déchire, on voit, mais moi d'abord, je vois le rideau. Je vois le rideau sans qu'il se déchire, il est là, le rideau, il est là, voilà. Puis, autour du rideau, il y a un tas de trucs, et puis il y a moi, voilà. C'est pas dans le déchir du rideau uniquement que je veux voir. Je vois les plis, je vois la vie dans les plis, par les plis. Vous savez, Deleuze a fait un livre qui s'appelle Le pli à l'âge baroque, c'est compliqué, les plis. Car on est tous de plis, hein. On peut me déplier, voilà, je fais de plis un peu partout. Les plis du rideau du hangar, mais le hangar n'a pas de rideau, mais c'est pas mal d'ailleurs de ce point de vue-là. Mais il y a effectivement des plis partout qu'on voit. Et donc, on n'est pas dans la bonne théologie, ça c'est certain, on n'est pas dans la bonne philosophie, on est juste une philosophie, on traverse l'apparence, c'est derrière le truc. Alors évidemment, on le signale, au cas où on n'a pas compris, c'est bien italique, on voit. Donc il y a sûrement un double sens du verbe voir. Et quelque part, c'est un peu curieux le rapport avec la grâce, parce que vous avez la grâce, bon, supposons, je joue le vieux macho traditionnel, les étudiants pleins de grâce, enfin voilà, je dis habillé, en cours. Je suis là, bon, voilà, je ne suis pas en train de me demander si elle a 5 kilos de trop ou de plus, elle peut être grasse ou pas, bon, elle est pleine de grâce, j'ai un garçon aussi à côté, voilà. Et j'ai pas envie de déchirer le rideau, de passer à travers pour derrière. Ce que je vois, c'est qu'elle a un pull, elle est habillée, des cheveux, on voit, j'ai pas besoin de déchirer le rideau. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est immédiatement superficiel. Ce que dit d'ailleurs la théologie, la peinture. Si on se rend à Rome, il y a une église à Rome qui s'appelle Saint-Louis des Français, où Chateaubriand est fait enterrer une de ses nombreuses maîtresses, Pauline de Beaumont. Et alors, quand on rentre dans Saint-Louis des Français, c'est assez obscur, il n'y a pas grand-chose, c'est en plus sale, parce qu'il y a des cierges un peu partout, voilà. Et dans un coin, sur la droite, quand on entre, il y a deux tableaux du Caravage, vraiment, on ne les voit pas. Enfin, il faut éclairer, vous mettez des pièces, hein, et ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, c'est très bien. Et là, nous avons un des deux, qui s'appelle La vocation de Saint Matthieu, par le Caravage. On n'y voit pas grand-chose, même quand on allume, quand il y a 1 ou 2 euros. Enfin, on voit quand même, parce qu'il est tellement sale, et on voit que c'est dans l'ombre, que se passe une scène, Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une bande de type plus ou moins, ils sont plus ou moins dans l'ombre. Il y en a un sur lequel il y a un peu de lumière qui arrive, un jeune, un petit jeune. Il est là, il regarde un peu, il est plutôt beau, il est plutôt mignon. Et puis il y a de l'ombre derrière, et quand on regarde un peu mieux, si on a encore un peu 2 euros dedans, mais ça fait partie du truc d'être dans l'église, dans l'obscurité, on n'y voit pas grand-chose, on met 2 euros. On devine vaguement qu'il y a une ombre au fond, il y a une porte qui s'en trouve, il y a un type qui arrive, on devine vaguement c'est une ombre, on croit comprendre que c'est le Christ qui arrive et qui lui dit: toi, toi mon petit gars! Toi, tu vas faire l'évangile, tu vas être moi aussi martyrisé. Et l'autre, il est avec ses copains, quoi. Comme nous ce soir. Voilà, on est là, tranquille, on est bien, il y a une table. Et soudain, tu as un type qui rentre et qui te dit: toi, j'ai pas envie, moi. Non, c'est moi. Ça, c'est la grâce. Ça vous tombe dessus d'un seul coup, c'est pas trop comment. Mais ce qui fait le tableau, le génie de Caravage, c'est que c'est pas très clair. C'est que c'est dans l'ombre. Personne n'y voit rien. Il y en a un qui est plus ou moins illuminé. Voilà, tout ça est un peu douteux. Voilà, c'est incertain. Et c'est ça qui est donné à voir dans la peinture. Dans la peinture vraiment géniale. C'est aussi, bon, la Bible est pleine d'histoires de grâce aussi. Vous voyez, c'est un peu dangereux. Vous avez Jonas. Hein, Jonas, vous savez, c'est un brave type du côté du Liban, par là, du Liban actuel. Il y a Dieu qui lui dit: toi, tu vas convertir un peu les gens, tu vas leur raconter. Alors lui, Jonas, il dit: mais non, ils vont m'emmerder. Quoi. Non, il parle dans un bateau. Dans un bateau, il y a la tempête, etc. Il dit: mais non. Alors les types sont indignés dans le bateau parce qu'évidemment, ils comprennent très vite que c'est parce que Jonas qui refuse la grâce, Dieu se venge. Alors il le fout dans la mer, paf, il tombe dans la mer. Il y a une baleine qui le bouffe. Voilà, on se dit, on a débarrassé. Et là, il ressurgit. Et là, il peut faire autrement, au bout d'un moment, il faut aller prédire Dieu. Et là, c'est pas commun d'avoir la grâce. Allez, Marilyn Monroe. Hein, Marilyn Monroe, elle a la grâce, elle est efficace, voilà, et puis elle se suicide un peu jeune. Voilà, voilà. Tandis que d'autres, je ne sais pas, Giscard est mort, il est un peu plus vieux, hein, il est moins grave, c'est comme ça. Donc il faut faire gare à la grâce, on y revient, ce petit gare à la grâce, une vieille histoire. La grâce, c'est grave, c'est dangereux, c'est difficile. Et voilà, et. Si la gare est pleine de grâce, grâce au printemps des poètes, il faut faire gare à la grâce. Et en particulier pour le printemps des poètes, il faut le dire: gare à la grâce, gare à la grâce, gare à la grâce. Parce qu'il y a un double problème. Soyons sérieux, la grâce, ça a deux inconvénients de mettre ce thème. Outre le fait que c'est un thème et que ce thème, c'est galant, ça pèse, ça pose, etc. Ça pèse, poids, sol, 3000 mètres de bolasse, là. La grâce, ça lie quelque part la poésie à la transcendance, à ce qu'on pourrait appeler l'arrière-monde, si on ne veut pas que ce soit nécessairement vertical, enfin c'est pas mal vertical, à quelque chose qui est un peu au-delà, ailleurs, un peu ailleurs. Alors que la poésie peut être matière, matériau, machin, truc, bidule, terre, sol, chair, patate, voilà. Et d'autre part, ça lie la poésie à la grâce, au sens du charme, à l'élégance, à une certaine forme de lyrisme un peu mystérieux, vous voyez. Très bien, qui est ça. Et là, il faut dire gare à la grâce, parce qu'en effet, il se trouve qu'une bonne partie de la poésie, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Hein, vous voyez, parce que Orphée, par exemple, quand il va gueuler au fond des forêts de la Thessalie, qui est un trou sur bled au fond de la forêt, il est poursuivi par les femmes, alors il va chanter devant les animaux, hein, voilà, les animaux, les loups, les sangliers, les trucs comme ça, il n'est pas gracieux. Et alors les femmes, elles arrivent, elles le déchiquettent, c'est pire que Brigitte Bardot, hein, que Johnny Hallyday, elles le déchiquettent, il meurt, il est coupé en morceaux, le pauvre type. Ça saigne de partout, tout ça saigne, c'est pas très gracieux, c'est pas terrible, et c'est horizontal, il n'y a pas de Dieu, c'est abominable, c'est affreux. Et donc il y a bien une poésie qui n'est pas du côté de la grâce, très largement. Et il y a des poètes modernes qui nous aident à ça, en dehors de Sébastien Espinasse aussi. Il y a effectivement un type qui s'appelle Francis Ponge, il est mort maintenant. Il a fait un livre, puis un deuxième livre, puis un troisième. Il y en a un qui s'appelle Le Parti pris des choses. Parti pris des choses. C'est pas terrible comme type de poésie. Hein. Je préfère, espère un peu courage, hein. C'est un autre chose. Hein. Voilà. J'attends le poulain, je renomme d'une renaissance. Alors, c'est solide. Oui, le parti pris des choses, c'est pas terrible, hein, il faut le dire. Hein. Puis après, il a fait un truc qui s'appelle Le Contenu des mots. Contenu des mots, ça fait. On dirait presque du Bruno Le Maire, contenu. Ça fait, hein, voilà. Je vais réduire les subventions pour n'importe quoi. C'est pas terrible. Hein. Dans le parti pris des choses, il met des poèmes sur des trucs comme l'abricot, le crottin, la vache, la chèvre, enfin d'autres trucs, la caisse, le cachot, des machins comme ça. Voilà. Il prend des trucs, là, des choses. Et en plus, pour écrire ses poèmes sur des trucs aussi nuls que le cajot, hein, voilà, le cajot sur le crottin, c'est pas terrible. Il va pas voir Dieu, il n'a pas le téléphone de Dieu ou du diable, s'il vous plaît. Il prend son dictionnaire, il explique ça. Il tient compte des mots, toutes les épaisseurs des mots, il prend son dictionnaire, il explique ça dans un livre qui s'appelle « Comme une fille de parole et pourquoi ». Donc il explique comment il fait son poème, qui s'appelle « La fille ». Il le fait avec la chèvre aussi, il travaille, il cherche à droite, à gauche, il aventure, il fait un bout de phrase, il prend un dictionnaire, etc. Donc il est épouvantablement matérialiste, ce type-là, à la fois par l'objet qu'il prend, et par les manières, le travail qu'il fait. Là, on est dans quelque chose qui est très loin du surgissement. On a vraiment un travail, on est dans quelque chose d'horizontal. Alors, pas tout à fait comme les Chevaliers du Fiel tout à l'heure, hein, qui sont des grands poètes, mais Francis Poche est aussi dans cette horizontalité, hein, véritablement, la table avec le pain dessus, peut-être bien le livre de Bruno Le Maire, peut-être ce qu'on veut, les rillettes, etc. Tout est possible pour la poésie. Et ça, c'est pas inintéressant, quelque part. Tout est possible, y compris des choses qu'on ne trouve pas gracieuse, et y compris par un poète qui n'est pas nécessairement gracieux, beau, avec des cheveux longs, blancs, etc., des petites lunettes à côté. Vous voyez, par exemple, si vous allez à Toulouse, place Wilson, vous avez vu la place Wilson, vous avez Goudouli, le poète toulousain, l'auteur du Rabelais Mundi. Alors, il a un mousquetaire, il est beau, il y a une fille à poil à ses pieds, ça va bien, c'est le genre de position que j'aimerais bien avoir. Voilà. Je suis là, au milieu de la fontaine, une fille magnifique, au sein, au très magnifique, ça. Donc, très bien, il est très beau, on dirait le mousquetaire, alors qu'il est tout seul, la fille bien. Mais si vous allez dans l'hôtel de la Seine, vous avez le reporter de Goudouli, il ressemble en gros au Jean-Luc Moudenc, avec un pif comme ça au milieu, il est moche, il n'était pas sympathique, etc. Il n'y a pas de fille à poil à ses pieds, rien du tout, rien, rien, il fait des poèmes, un petit peu chiant, quoi. Et alors, dans la poésie contemporaine, il y en a plein, des poètes comme ça, qui ne font pas nécessairement des choses avec des trucs gracieux, qui ne sont pas nécessairement gracieux au sens et joli. Ce soir, vous aurez la chance d'entendre, à condition que vous ayez réservé vos places, naturellement, et que vous ayez versé, si vous n'avez pas fait, un chèque assez important à la direction du théâtre du Hangar, si vous n'avez pas réservé vos places. Bon, à partir de 380 €, vous aurez peut-être une chance d'entrer, voilà, de vous. Et vous aurez la chance peut-être d'entendre à ce moment-là un poème de Charles Pennequin. Et Charles Pennequin n'est pas un type très gracieux, ses poèmes ne sont pas très gracieux, il parle de trucs un peu verdites, hein, ouais, il faut le dire, voilà. C'est très bien, c'est pas très bien, voilà. Il y a aussi Tarkos qui fait un bouquin de poésie qui s'appelle, on en dit pas, je crois, ce sorcier, non, les caisses. Alors qu'est-ce qu'une caisse, la caisse c'est pas terrible, c'est pas très gracieux, une caisse, on est n'importe quoi, non, qu'est-ce qu'une caisse, etc. Et même les bruissonnantes, et même Sébastien Espina, c'est son travail au bois, etc., c'est terrible. Est-ce que c'est vraiment la grâce qui est là, qui s'incarne? C'est pas si sûr, mais voilà, il y a un vaste champ de poésie qui résiste à ce que Francis Poche appelle la pompe lyrique. La pompe lyrique de la grâce. Et ça commence il y a très longtemps. Il y a très longtemps, avec un des plus grands poèmes de tous les temps de la civilisation occidentale, il y en a un autre qui est la Bible. La Bible, c'est complètement foutraque, c'est n'importe quoi, c'est pas gracieux, c'est trop gros, c'est trop maigre, il y a le tout dedans, enfin bon. C'est pas gracieux du tout, la Bible. Ça, je peux vous dire, je vais vous travailler dessus, mais alors, c'est vraiment pas gracieux. Hein. C'est pas gracieux du tout, c'est trop gros, c'est n'importe quel genre. Non, lire, pas toujours la religion catholique ou la religion protestante ou la religion juive. Lire, le poème par excellence de l'Occident, l'origine de la Grèce, etc. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est un truc terrible, c'est une guerre. La guerre, c'est pas gracieux, c'est la guerre. On le sait, Poutine, il est pas gracieux. Les gens qui attaquent Gaza ne sont pas nécessairement gracieux, les types qui ont les types écartés, éclatés à Gaza ou à Kiev ou ailleurs, ils ne sont pas nécessairement gracieux. Si vous allez voir Mariupol, 20 jours de siège, bon, c'est pas terriblement gracieux. Et Poutine n'est vraiment pas, non, il n'est vraiment pas gracieux, Netanyahu non plus, quoi, voilà. Et donc, à l'époque, c'était un peu pareil, hein, Alors, le prétexte de la guerre de Troie, c'est quand même une beauté, hein, Hélène de Troie, est enlevée, voilà, du côté de Troie, et puis les types de Grèce, ils ont un peu les boules, parce qu'elle était mariée avec Ménélas, et Ménélas rassemble ses copains en leur disant « Allez les gars, on va faire tous la guerre !» Alors vous savez, c'est comme l'Europe aujourd'hui, il y a un client qui fait la guerre, et ils ont dit « Oula !» On n'a pas très envie. Alors le grand type qui normalement devait faire la guerre, il s'appelle Achille à l'époque. Ménélas lui dit « Allez, je nomme Agamemnon en général, Achille doit faire la guerre. »« Oui, 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 j'ai autre chose à faire. » Moi, j'ai autre chose à faire. Et là, il se déguise en fille, Achille, vous voulez dire Achille, Achille, pas Achille, non, Achille, hein. Il se déguise en fille, il se cache. Il n'a pas envie de faire la guerre, il n'a pas faire le service militaire, il n'a pas envie, là. Il a tort, il n'a pas envie. Il n'a vraiment pas envie. Alors, il se déguise en fille, tout ça. Là. Il y a Ulysse qui va le voir, alors Ulysse, il est malin. Ulysse, il est malin, il sait quand même que c'est un nain qui va le voir, il va même oublier des filles, parce que l'autre, on a une sorte de couvent de filles, c'est pas un couvent gynécée. Il va planquer au milieu des filles, il est vieille, il ne peut pas faire la guerre, moi, c'est pas gracieux la guerre, au milieu des filles, c'est joli, voilà. Et Ulysse floue au milieu de tout ça quelques armes et quelques instruments pour les filles. Et Achille, comme un connard, va regarder les armes. Putain, il va regarder les motos. Voilà, il va regarder les armes. Et lui, il dit, c'est moi, lui, il est tu y vas, allez, hop, dans le bateau, tu y vas, il n'y a pas envie d'y aller, voilà. Alors, mais c'est pas très gracieux, c'est pas très glorieux. Hein, c'est, ça, voilà. Il va, et quand il est là-bas, première chose qu'il fait, bon, il commence à faire la grève. Il est dans le camp, il a fait la grève, pourquoi? Vous savez, bon, Achille et Bélène, hein, surtout, et non. Mais quand même, il avait aussi des servantes, hein, et aussi des pin-up, hein, qui se tapaient un petit peu comme tout le monde. Hein. Et il se trouve que Agamemnon lui en pique une, qui s'appelle Briseis. Alors le chef m'a piqué ma copine, le chef m'a piqué ma copine. Alors, des années de grève, alors il faut imaginer, l'Iliade, ça raconte ça, c'est la colère d'Achille. Ils sont là, il y a les Troyens qui sont dans leur truc, là, voilà. Ils se disent, on va se battre, quoi, voilà. Ils sont là, et Achille fait grève. Il fait grève, ouais, il fait grève pendant des années. C'est complètement nul, c'est pas gracieux, c'est pas glorieux, c'est la grève. Et puis à un moment, bon, il y a Hector qui s'énerve un petit peu, qui tue le combat d'Achille, qui s'appelle Patrocle. Il a tué au combat. Il y va, bon, voilà, c'est la guerre, et là, bon, bam, ça massacre. Ils ont la trouille, c'est terrible, hein, c'est comme les soldats russes, les soldats ukrainiens, les soldats israéliens, les Gazaouis, peu importe. Quoi. On fait la guerre, c'est pas joli, hein, c'est pas joli. Et donc, la poésie ne commence pas nécessairement à l'Occident même par la grâce, par la guerre, la violence, l'horreur, et aussi éventuellement par la grandeur, parce que cette laideur a sa grandeur. Et là, on revient à Francis Ponge. Le crottin n'est pas gracieux. Non. Il n'y a pas les dieux derrière le crottin, enfin, je crois pas, enfin voilà. Mais on peut donner sa grandeur au crottin, à l'abricot, au cajot, etc. Nous restituer la dignité des choses, la dignité même de la guerre. Et un grand poète est quelqu'un qui peut faire de la poésie, même sur la guerre, y compris sur la guerre, et même sur Poutine. La grandeur de Poutine est horrible, évidemment. Mais il y a une grandeur quelque part de l'horrible, etc. Alors, imaginez, vous alliez faire à Saintes un festival de poésie, sur les démons, les tyrans, les affreux, les méchants, les abominables. Non, non. Et pourtant, si. Pourquoi pas? Alors, celui qui a compris ça mieux, peut-être qu'Homère, dans la littérature contemporaine, c'est évidemment Giscard. C'est évidemment Giscard dans ce fameux roman qui s'appelle Le Passage, alors qui est évidemment un roman qu'on doit en fait à François Mitran, parce que si François Mitran avait l'affaire des diamants, etc., n'avait pas éliminé Giscard, disons, du second tour, voilà, on aurait eu un nouveau président de la République, encore une fois, bon, ça aurait été un peu ennuyeux, et Giscard aurait été retenu d'écrire effectivement quelques années plus tard Le Passage. Donc, Le Passage, c'est un très beau titre, hein, évidemment, Le Passage biblique, la Pâque, enfin, tout ce que vous voulez, le plus beau titre de tous les romans de tous les temps. Et donc, ça se passe à peu près comme ça, pour ceux qui l'ont un peu oublié, parce que je sais que tout le monde le lit, le relit sans arrêt, nuit et jour, le traduit, etc. Bon, mais parfois on oublie, on a des trous de mémoire. Et donc, dans Le Passage, Giscard, c'est-à-dire Charles, va à la chasse, est invité par son copain Michel, là, il va à la chasse, il a envie d'aller à la chasse, parfois il est un peu fatigué. Et donc, sur la route, il voit une jeune fille qui est là, arrêtée. Bon, il se dit quand même, ça serait bien, mais il va à la chasse, il tue un cerf ou deux. Et puis, comme il pense qu'à la fille, puis quelques temps plus tard, son copain Michel le réinvite, et de nouveau, au même endroit, long de la même route, il doit la même fille au guet de Chambord. C'est tout horizontal. Mais c'est... Bon, c'est quand même mieux Giscard avec le guet de Chambord que les Chevaliers du Fiel avec les pizza calzone à Narbonne. Mais enfin bon, mais c'est quand même la même horizontalité, c'est essentiel. Donc, il embarque la fille dans sa voiture, bon, voilà, très bien. Alors, c'est pas le genre de Pardieu, hein, ou n'importe, hein, les charmières millénaires ou plein d'autres, d'accord, voilà. C'est même pas le genre Jean-Michel Maupoix, hein, qui bat sa femme, un truc comme ça. Non, pas du tout. Bon, il la prend, il l'amène chez lui, il ne la viole pas. Au petit matin, il lui offre à manger. Mais pour l'instant, il n'a rien fait, hein. Non, attention. Non. Et là, il lui offre à manger quoi? Il lui propose des rillettes, qui sont un produit du coin, et puis une omelette froide avec Jérôme Bayonne et une tarte. Donc on est dans l'horizontalité, hein, voilà. On est dans le projet, hein, quelque chose comme ça. Je vous lis quelques lignes de la page 111. Hein, voilà. Je lui tends le plat de rillettes en le faisant glisser donc, l'horizontalité, sur la table et je me lève pour servir le vin. C'est un peu la phrase. Et cette phrase magnifique. Elle se nourrit de rillettes et du pain de campagne, avec un délicieux du boulanger des villages, etc. Je m'appelle Nathalie, Nathalie sans H, etc. Donc, elle se nourrit de rillettes. Là, vous comprenez comment éclate l'Iliade, je ne suis pas sage. Là, une espèce d'esthético-mystico, tout ce qu'on veut, peu importe les poètes de la grâce. Elle se nourrit de rillettes, voilà, d'ailleurs, je ne fais pas rien, enfin, en réalité, voilà. Qui vient du coin, voilà, du coin. Et il n'y a rien de plus puissant que de protester contre la grâce.
par l'ariette, par la reprise à l'intérieur du son, vous vous souvenez, André Velter, troubadour au long cours. Ouf, ouf. Ça rime, hein, c'est amour toujours, hein, voilà, on sent le truc, on va t'en mettre. Elle se nourrit de rillettes. Ça, c'est plus fort. Parce que là, c'est sonore. Ça se rentre dedans. Ça se détermine en guette, couillette, billette, billette, etc. Elle se nourrit de rillettes. Et au lieu d'avoir simplement la grâce de jeune fille, Nathalie Sanhache, de nous faire des pages et des pages sur la grâce, etc., comme Ronsard, La Fontaine ou d'autres, etc., la seule chose qu'on apprend, c'est qu'elle se nourrit de rillettes. Voilà une protestation du fond de la littérature contemporaine contre le Printemps des Poètes, contre Sophie Nolo, contre même André Velter et contre ce type qui s'appelle Sylvain Tesson qui montait avec Sophie Nolo au sommet, l'inscrit dans Le Point de cette semaine, lisez Le Point. Hein, il ne faut lire que les jours de droit, Le Point, c'est pas la peine, hein, sinon. Dans Le Point, Sophie explique très bien cette chose extraordinaire. Elle est montée, après avoir rencontré André Velter, avec le fameux Sylvain Tesson, je crois que c'est comme ça, voilà. Sur la flèche de Notre-Dame, là, rappel, hein, c'est pas évident, hein, voilà, c'est pas évident, avec 8 kilos, ça, c'est très. Et en haut, André Velter était déjà un peu vieux, donc il n'est pas monté. C'est comme une fois, ils sont apparus dans Le Printemps des Poètes, un marge de la poésie, André et Velter et Sophie Nolo, dans un 4x4. Nous, on était sales avec Sébastien, avec d'autres, Serge Pé, etc. Eux, ils étaient gracieux, mais ils avaient un 4x4, il y avait une belle chambre d'hôtel, c'était pas vraiment enculé, quoi, voilà, c'était sale. Voilà, et, il faut imaginer Sophie Nolo montant sur la flèche de Notre-Dame. Avec Sylvain Tesson, c'est Tesson, ce nom n'est pas possible, Tesson, son père. Et il monte en haut sur la pointe, donc alors certains disent, bon voilà, la pointe lui passe dans les fesses, etc. Et ils disent des poèmes à Chantal Mauduit, ce qu'on vient de lire à l'instant. Et c'est une des scènes les plus pornographiques et les plus mystiques de l'histoire de la littérature française. C'est la grâce incarnée, les fesses posées de Sophie avec Sylvain, en haut de la flèche de Notre-Dame, ça a tellement chauffé que quelques années plus tard, ça a brûlé. Hein.
Bonsoir. Au revoir.
Mémodio, une mémoire sonore.